scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour à tous, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui on est reparti pour un épisode d'aphorisme. J'espère que vous avez pu apprécier l'épisode de la semaine dernière là, qui était la conférence de Serge Brett-Morel avec les slides synchronisés avec la vidéo. C'était vraiment... Serge a proposé de faire ce travail pour nous. Il a lui-même synchronisé les slides avec l'audio de sa conférence et je pense que le résultat était très très chouette. Comme ça, tout le monde a pu en profiter parce qu'il est vrai que sa conférence sans les images pour l'illustrer n'aurait pas été toujours très facile à suivre. Et aussi, tant que j'y suis, je voulais tout d'abord remercier... Claude Coiseur, des sceptiques du Québec qui s'occupe de la maintenance du site web. Il a mis sa photo cette semaine sur la page d'accueil du site web. Je sais bien qu'il m'a demandé s'il pouvait la mettre. Je lui ai dit, oui, évidemment. C'est vrai que c'est un peu l'homme de l'ombre pour la nouvelle mouture du site web. C'est bien qu'on le mentionne quand même puisque c'est lui qui s'occupe du hosting et qui le gère quoi. Dès qu'on a un problème technique, c'est lui qui s'en occupe. Donc Claude Coiseau, pour ceux qui ne le savent pas, il s'occupe aussi du site des sceptiques du Québec, mais il est à Berlin, enfin bon, ça c'est voilà. Et alors au niveau du Patreon, je voulais remercier aussi Vincent et Crazy Miller qui ont fait des dons il y a quelques mois déjà. J'ai pas eu le temps encore de les remercier, mais il y a toujours des gens qui contribuent au Patreon et c'est très très chouette. Et j'ai aussi envoyé les exemplaires du livre quand c'était nécessaire, donc normalement vous devriez tous l'avoir reçu. Si vous n'avez pas reçu votre exemplaire du livre, vous ferez bien, enfin envoyez-moi un petit email pour me dire je me suis trompé ou je ne l'ai pas fait correctement. Ça c'est un peu pour les nouvelles, et puis on va foncer dans les aphorismes. J'ai mon générateur, enfin mon dé virtuel que je jette sauvagement et ça nous donne 41. Oui, l'aphorisme 41, c'est les sceptiques les plus compétents sont souvent des gens qui ont été auparavant des tenants. À cause de ça, ils ont généralement une maîtrise plus approfondie de la littérature qu'ils critiquent. Oui, ça c'est juste une observation empirique de la communauté sceptique. Souvent, y a beaucoup de sceptiques qui ont fait du super boulot et qui étaient auparavant détenants. On peut en mentionner quelques-uns. Il y a donc Serge Brett-Morel qui était un astrologue que vous avez eu l'occasion d'entendre ces dernières semaines. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, comme Marc Allais sur les ovnis, un sceptique belge bien connu. Il a beaucoup travaillé sur la vague belge. Marc Allais, il croyait dans Adamski, hein, George Adamski. Donc George Adamski avait créé une sorte de nouveau mouvement religieux à l'époque. Et Marc Allais avait fait partie de ce groupe, de la branche belge, quand il était très jeune, hein, je pense que c'était vers... quand il était jeune adulte, et puis il a rapidement changé d'opinion parce qu'il a trouvé des informations. En faisant partie de ce groupe, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne tenaient pas la route à propos de George Adamski. Oui, pour ceux qui ne sauraient pas, George Adamski, c'est un des contactés les plus célèbres qui a prétendu avoir rencontré un Vénitien dans le désert. Il a pris des tas de photos, des choses comme ça, mais... Enfin, Marc Allais a écrit plusieurs livres sur le sujet, mais en tout cas son dernier, c'est vraiment extrêmement complet sur comment est-ce qu'on peut établir qu'Adamski était un fraudeur, un hoaxeur. De toute façon, c'est un peu le prototype du fondateur de mouvements religieux, de sectes à tendance soukoupiquin. Voilà, il y en a beaucoup d'autres, certainement beaucoup trop pour tous les mentionner, mais... Je pense que c'est assez naturel que forcément quelqu'un qui croit fortement dans quelque chose et donc qui s'immerge dans ce domaine finisse par... S'il devient sceptique, il a une meilleure, il a une perspective de l'intérieur du sujet et pas une perspective extérieure. Et donc forcément, ses critiques sont plus poussées, quoi. C'est vrai que c'était quelque chose de particulièrement flagrant avec les ufologues, beaucoup d'ufologues. Thierry Pinvidic, donc ce qu'on a appelé les nouveaux ufologues, hein, sont des gens qui ont été des tenants avant. Si vous regardez le premier ouvrage de Thierry Pinvidic, Le Nœud Gordien, c'était un ouvrage de tenant, et puis il a changé de position. Jacques Scorneau aussi, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont partis d'une position en étant plutôt en faveur de l'hypothèse extraterrestre, et puis, bon, je dis pas qu'ils étaient membres de la frange, ce qu'on appelle la frange lunatique, hein, mais ils avaient une position plutôt en faveur de l'hypothèse extraterrestre, et puis ils se sont orientés vers plus en plus de scepticisme. C'est pour... Donc bon, pas mal du faux sceptique actuel sont en fait d'anciens tenants, grosso modo, qui sont devenus sceptiques en étudiant le phénomène ovni, quoi. De par même leur intérêt les a rendus plus sceptiques. Voilà. Bon, après, évidemment, ça, je ne veux pas dire que... C'était un peu pour cette observation-là qu'on fait empiriquement, mais bon, évidemment c'est pas toujours vrai. Hein. Et puis, je veux dire, si quelqu'un est par exemple, je sais pas, un défunt, enfin, démystifie les négationnistes, les sceptiques du réchauffement climatique ou des changements climatiques, bah, souvent, c'est vrai que ça change la donne. Ça dépend de quel sujet on parle, évidemment. Là, ça sera scientifique. En général, il n'aura pas été un tenant avant, mais... C'est juste sa formation scientifique qui fait qu'il estime qu'il faut combattre la désinformation qu'on a sur ces sujets sur le net. En gros, c'est souvent sur les sujets liés aux parasciences, aux pseudosciences, au paranormal qu'on a ce phénomène-là. Et beaucoup de gens qui commencent en étant convaincus, bah, pas simplement parce ils n'ont pas accès à une meilleure information. Et donc forcément, si on n'a pas accès à une meilleure information, que la formation sceptique est difficile à trouver, on n'entend pas d'autres sons de cloche, hein, c'est assez logique, quoi. Mais enfin bon, moi, bizarrement, chez moi, c'est pas tellement mon cas. J'ai jamais vraiment été un croyant avant. Dans le phénomène ovni, par exemple, c'est vrai que j'ai toujours été sceptique. Donc ça s'applique pas tellement à moi-même. Mais je pense que c'est une observation qu'on peut tous un peu faire. Alors, nouvel aphorisme. Hop. L'aphorisme numéro 5, le relativisme cognitif est la position qui consiste à penser qu'il n'existe pas de vérité absolue que la rationalité pourrait potentiellement découvrir. Je répète, le relativisme cognitif est la position qui consiste à penser qu'il n'existe pas de vérité absolue que la rationalité pourrait potentiellement découvrir. Oui, ça c'est un aphorisme que j'ai écrit il y a de nombreux mois. Et je pense que c'était, si mes souvenirs sont bons, hein, bon, nos souvenirs ne sont pas fiables, on sait bien. C'était lié à un épisode que j'avais fait où je parlais de l'apologétisme, de la contre-apologétique, de l'apologétique et de la contre-apologétique. C'était un épisode qui avait un peu fait le buzz comme ça, parce que bon, entre autres, j'exprimais le fait que personnellement je trouvais que William Lane Craig était assez intéressant comme gars. Ouais, de toute façon, c'est les goûts et les couleurs, hein. Enfin bon, moi je trouve que j'aime bien écouter le podcast de William Lane Craig. C'est une de mes grandes constantes, hein. J'ai pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour apprécier l'écouter et trouver qu'il raconte des choses intéressantes. Je suis pas d'accord avec les trois quarts des positions qu'il défend, mais j'ai pas besoin de le diaboliser parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, quoi, sur plein de choses. Mais oui, enfin bref, j'avais dit ce genre de truc et ça avait un peu fait le buzz. Et une des choses qu'on m'avait dites à l'époque, c'était que ce qui surprenait les gens dans cet épisode, c'est que je sonnais très relativiste. Et ça m'avait donné à réfléchir, parce que personnellement, je ne me vis pas du tout comme étant relativiste. Je me dis, mais d'où ça vient cette idée que je sonne relativiste? Et alors, je me suis un peu plongé dans mes réflexions et dans mes lectures sur le sujet. Et je vais essayer, bon, c'est purement mon interprétation de ce que les gens voulaient dire et ma perception des choses, hein, mais enfin, je vais essayer d'éclairer la chose. Pourquoi les gens pensent que je suis un relativiste? Parce que parfois dans mes réflexions, j'ai un certain nombre d'éléments. Par exemple, je pense que la culture influence fortement les choses qu'on pense. Notre cognition est fortement orientée par notre propre culture. Donc, quelqu'un qui est dans la culture belge pensera différemment de quelqu'un qui est dans la culture japonaise. C'est vrai que c'est des réflexions qui viennent évidemment de mon immersion dans la culture japonaise et des réflexions philosophiques, parce que je lis pas mal sur la philosophie japonaise, et c'est une des grandes questions du sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui philosophie en français va philosopher de la même façon que quelqu'un qui philosophie en japonais? Il n'y a pas question plus philosophique que ça. Mais donc c'est l'idée de est-ce que la culture influence nos pensées ou pas? Et d'ailleurs, j'ai lu un excellent manuel qui s'appelle Cultural Psychology sur un domaine qui émerge un peu sur justement ce que, bon, en français, plus la psychologie culturelle, qui essaie d'étudier et de voir comment. Bon, habituellement, en psycho, on pense que la cognition est relativement universelle. Et ça se voit parce que toutes les expériences sont faites sur des étudiants en psycho américains. Je crois que les chiffres sont absolument affolants, mais les sujets d'expérience en psycho sont toujours. Je crois que c'était non, je crois que c'était 40%, j'avais lu, de sujets d'élèves en psycho américains. Et si on met européen avec, ça, c'était 80%, un truc comme ça, quoi. Donc il y a très peu de choses qui se font sur une autre population que des élèves en psycho occidentaux. Mais alors, après, on généralise ces résultats en disant les humains pensent de la manière, blablabla. Mais ça veut dire que tout le monde pense comme des élèves en psycho américains. Enfin, je caricature, c'est pas exactement comme ça, mais vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Ça présuppose évidemment que, je sais pas, quelqu'un en Afrique subsaharienne ou en Asie pense de la même façon. Et c'est quelque chose d'un peu non questionné en psycho, mais est-ce qu'on croit vraiment en ça? Et donc, il y a un mouvement qui est en train d'émerger qui s'appelle la psychologie culturelle, qui essaie au contraire de voir, de tester l'idée. Est-ce que les gens ailleurs pensent autrement? Et donc, c'est un manuel, un Cultural Psychology. J'ai pas le nom de l'auteur comme ça qui me vient à l'esprit, mais où il fait un état des lieux, des expériences qui ont été faites pour essayer de voir si c'était vrai, quoi. Enfin, qu'est-ce qui est universel dans la pensée, qu'est-ce qui est influencé culturellement. Et en plus, c'était super dans ce manuel parce que l'auteur a personnellement plutôt travaillé sur le Japon, donc il donnait beaucoup d'exemples que je connaissais bien. Et donc, voilà. Mais je pense que c'est une vraie question. Est-ce que la culture influence nos pensées? Moi, j'aurais tendance à répondre oui, mais alors la question après, c'est dans quelle mesure ou comment? Comment le langage influence notre pensée? Dans quelle mesure et comment? Mais bizarrement, je veux dire, évidemment, ça, si on réfléchit à ce genre de choses, on dit, ben oui, on n'est pas des purs esprits désincarnés qui réfléchissons à des sujets. Or souvent, j'ai l'impression que c'est le genre de représentation qu'on a chez les sceptiques, on est des purettes de rationalité, que donc on pense de manière claire et transparente, et donc on arrivera toujours aux bonnes des conclusions, qu'on est. Il y a une sorte. Dans les communautés sceptiques, j'ai l'impression qu'on limite les influences qu'on a sur nous. Enfin, bon, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui disent on n'a pas le libre arbitre. Donc, de toute façon, si vous dites que vous n'avez pas le libre arbitre, ça veut dire que la manière dont vous pensez est complètement conditionnée par par les variables qui sont en input, quoi. Donc, en fait, vous avez l'impression de penser de manière rationnelle, mais de toute manière, en fait, c'est purement voilà, les chaînes de causalité qui déterminent ce que vous pensez. Donc, vous ne pensez rien. Les conclusions à laquelle vous arrivez sont les seules conclusions auxquelles vous pouvez arriver en raison des chaînes de causalité. Donc, si vous défendez une position qui dit le libre arbitre n'existe pas du tout, sous aucune forme, enfin voilà, il n'y a pas de libre arbitre, point barre, la discussion s'arrête là, bah forcément, pour pouvoir raisonner, finalement, il faut avoir du libre arbitre. Hein. En tout cas, une certaine forme ou un certain degré. Bah, après, enfin, là, je suis en train de mettre plein de bémols comme d'hab, mais c'est parce qu'en fait, tous ces débats-là, ça dépend comment on définit les mots de libre arbitre. Mais donc, oui, là. Voilà, et je pense qu'il y a quand même des choses qui influencent notre manière de penser, des éléments culturels. Entre autres, hein, voilà, c'était l'exemple de la culture. Mais quand je dis ça, bah, évidemment, ça peut sonner relativiste parce qu'on se dit, ben, si la culture détermine comment on pense, ben, comment savoir qu'on a vraiment accès, est-ce qu'on peut vraiment avoir accès à la vérité, ou comment savoir si on a accès à la vérité? Et donc pour certaines personnes, je pense que ça peut sonner comme du relativisme cognitif. Mais je me réfléchissais, parce que moi j'ai lu la posture intellectuelle de Brégmont, et je me suis jamais reconnu dans les gens qui défendaient le relativisme cognitif. Et du coup, je suis allé voir une définition dans un dictionnaire de philo. Qu'est-ce que c'est le relativisme cognitif? C'est la position qui consiste, c'était ça mon aphorisme, hein, qui consiste à penser qu'il n'existe pas de vérité absolue que la rationalité pourrait potentiellement découvrir. Donc le relativisme, c'est de considérer qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas du tout la position que je défends, hein. Moi, je pense qu'il y a des vérités absolues. Par exemple, je pense qu'il y a une réponse à la question est-ce que des extraterrestres visitent ou non notre planète à l'heure actuelle? Il y a une réponse à cette question-là. Soit c'est oui, soit c'est non. Donc je suis le premier à penser qu'il y a des vérités absolues. Mais simplement, c'est pas parce qu'on pense qu'il y a des vérités absolues qu'on pense qu'on peut facilement les découvrir, ou qu'on pense qu'il n'y a pas de contraintes qui sont mises sur notre façon de penser, hein. Donc, en gros, mais de toute façon, enfin, c'est pour ça que j'étais même un peu étonné à l'époque qu'on m'accuse, entre guillemets, de relativisme cognitif, parce que tous les sophismes et tous ces machins-là, c'est les contraintes qu'on a sur notre pensée. Je sais bien que beaucoup de sceptiques ne le vivent pas comme ça, parce que ils voient ces biais, ces sophismes, comme les erreurs que les autres font, et pas comme les erreurs que eux font, hein. Mais, vous savez, tous les autres font plein de biais, mais évidemment, les sceptiques, ils font pas les biais, quoi. Biais de confirmation, par exemple. Mais pour moi, par exemple, pour moi, le biais de confirmation, ça n'a jamais été un biais à identifier chez autrui, même si évidemment on peut le voir chez autrui, mais c'est un biais qu'on a identifié chez nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi des contraintes qu'on a sur notre propre cognition. Donc en gros, quand je dis, par exemple, la culture influence notre façon de penser, c'est exactement comme dire la pente naturelle de l'esprit humain, c'est de chercher les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. C'est des contraintes sur notre façon de penser, hein. Mais je veux dire, cette idée que la culture influence notre pensée, c'est toujours si si on avait grandi dans l'Allemagne nazie, on serait nazi, hein. Je sais pas, je suis parfois étonné de voir que parce que c'est vrai, c'est des discussions que j'ai eues à Sceptico-Pop avec des sceptiques comme ça, un peu de manière informelle, de voir que c'est le genre de choses qui choquent un peu les sceptiques, ce genre d'idée. C'est une sorte de croyance dans le pouvoir absolu de la rationalité, du dit sceptique, dans sa propre rationalité. Mais moi, par exemple, je me dis, si j'avais grandi en Amérique, dans les États-Unis du Sud, où tout le monde est chrétien, je serais certainement chrétien aussi. Enfin, c'est un peu absurde, de poser évidemment ce genre de questions, mais je pense qu'on est vraiment très fortement influencé par notre environnement. Et donc, dans les débats sur la religiosité et l'athéisme, bah oui, c'est quelque chose que je racontais aussi dans l'épisode, mais la grande majorité des athées que je fréquente, ou des gens qui sont plutôt incroyants, non affiliés à une religion, ils le sont à cause de la culture ambiante sécularisée en Europe, et pas parce qu'ils ont eu des tonnes de réflexions rationnelles hyper poussées sur ces questions-là, quoi. Donc, ils sont non religieux pour les mêmes raisons que s'ils avaient grandi ailleurs, ils étaient religieux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui se plongent vraiment profondément dans les questions d'apologétique pour examiner vraiment la question de est-ce que Dieu existe ou pas de manière vraiment rationnelle et argumentée, etc. Enfin voilà, c'était un peu quelques réflexions que j'ai à propos du relativisme cognitif. Donc pour préciser ma pensée, moi j'adhère pas au relativisme cognitif du tout, en tout cas je me vis pas du tout comme ça. Par contre, je considère qu'il y a des tas de biais dans notre mode de pensée, ou l'influence de la culture, etc., qui mettent des limites à ce que nous sommes capables de penser, quoi. Hop, un petit lancer de dés. Et ça nous emmène à... Ah bah ça complète un peu, c'est beaucoup plus loin, c'est la 29, donc on est beaucoup plus loin, mais c'est un peu du... dans le même registre. L'aphorisme est « Le scepticisme scientifique ne devrait pas être une position arrogante du type « Moi, je suis rationnel, mais pas les autres. On est tous plus ou moins irrationnels. » Oui, bah ça, c'est toujours... Ouais, voilà, ça complète un peu ce que je disais. C'est toujours le problème de penser... Enfin, c'est des choses que j'entends parfois encore dans les milieux sceptiques, de dire « Oh, moi, je suis rationnel. » Les autres sont irrationnels, enfin c'est moi versus eux. On va entendre des choses du genre, moi quand j'examine mes propres cognitions, je pense que je suis totalement rationnel, ou je n'ai aucune croyance irrationnelle. Rien de ce que je ne pense est du régime de la croyance. Enfin, il y a des sortes d'affirmations qu'on lit qui... Enfin moi honnêtement ça me choque un peu, je me dis les gens pensent vraiment qu'ils sont... En tout cas, surtout t'es sceptique en fait, parce que c'est ça le message du scepticisme, hein, c'est de dire vous n'êtes pas rationnel. Et être rationnel, moi je dis toujours, c'est un objectif qu'on n'atteindra jamais en fait. Hein. C'est un horizon vers lequel on n'arrive jamais. Si vous pensez rationnel ou vous pensez que vous n'avez aucune croyance irrationnelle, c'est que, pour moi, c'est que vous n'avez pas compris le message du scepticisme. Hein. En fait, le message du scepticisme devrait vous rendre plus humble, mais il a tendance à rendre les gens plus arrogants. C'est ça qui m'étonne toujours, en fait. C'est une sorte de paradoxe. Moi, je suis sûr que j'ai plein de croyances irrationnelles. Il y a plein de choses que... Enfin, de toute façon, il faut définir irrationnel, mais il y a plein de choses que j'ai pas, que je pense dans ma tête et que je n'ai pas pu examiner de manière rationnelle, justement. Que c'est des choses que j'ai entendues, qui flottent dans la culture ambiante. On ne peut pas vérifier toutes les informations qu'on a. On n'est pas des ordinateurs avec un pouvoir computationnel. On n'est justement pas des Monsieur Spock, hein, qui est un peu la caricature de la rationalité. Mais... Donc voilà, je pense vraiment que cette attitude de eux versus nous, en disant les gens sont irrationnels, mais nous sommes... Non, ils sont irrationnels, mais nous sommes rationnels. C'est vraiment louper le coche, quoi. C'est vraiment être à côté du message du scepticisme, quoi. En gros, le problème, c'est toujours de différencier le processus et le contenu. La plupart des sceptiques adoptent un certain nombre de contenus sans avoir le processus. Je dis toujours, moi, pour le 11 septembre, par exemple, j'ai pas les compétences pour évaluer les arguments des uns et des autres, donc j'accepte le contenu qui est affirmé par la communauté sceptique et le consensus qui me paraît le plus scientifique, le plus évident, donc qui est évidemment qu'il n'y a pas eu de conspiration pour le 11 septembre. C'est pas comme si c'était un processus rationnel. Enfin, ou alors vous considérez qu'accepter l'argument d'autorité du consensus scientifique, c'est un processus rationnel. Mais je veux dire, c'est pas comme si j'avais examiné moi l'ensemble des éléments, que j'avais sous-pesé la chose et que j'avais décidé en âme et conscience, en fonction des meilleurs arguments et des meilleurs raisonnements, etc., que effectivement c'était ça la situation. Encore une fois, c'est normal, il y a plein de choses. Vous pouvez pas, on peut pas être des experts dans tous les domaines, c'est impossible, quoi. Donc, mais j'ai l'impression que souvent, que les... Oui, c'est peut-être ça l'idée, c'est qu'il y a des gens qui pensent que... On va dire, par exemple, la position rationnelle, c'est de dire que l'homéopathie, c'est purement de l'effet placebo et qu'il n'y a pas d'effet réel d'objectif. Donc il n'y a pas d'effet d'objectif de la gélule. C'est juste, ça amène juste l'effet placebo, un effet subjectif de mieux-être. On a l'impression qu'on va mieux, quoi. Et on va dire que ça, c'est la position rationnelle sur l'état du débat en la matière. Bah, je veux dire, si un sceptique, c'est pas parce qu'une personne, c'est toujours la même chose, hein, c'est contenu versus processus, quoi. Si quelqu'un fait partie de la communauté sceptique et qu'il accepte cette conclusion parce qu'il voit que les autres sceptiques la défendent, et donc il considère que les autres sceptiques, ou je sais pas, Edgar Ernst, etc., sont les autorités compétentes en la matière, il accepte le contenu, mais c'est pas pour ça qu'il a fait le processus, quoi. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas rationnel parce qu'on défend les positions rationnelles, et encore une fois. Ou vous n'êtes pas rationnel parce que vous défendez les positions que moi j'estime être les bonnes positions dans un débat. La rationalité, c'est que vous seriez arrivé à ces conclusions par des processus cognitifs qui seraient particulièrement logiques, raisonnés, argumentés, basés sur les preuves, etc. Mais il y a plein de domaines où c'est pas le cas, quoi. Même pour un sceptique. Enfin, je suis sûr, enfin, je sais pas, non, mais... Bon, évidemment, vous écoutez mon podcast, Donc vous êtes assez exposé à des informations sceptiques sur le phénomène OVNI, mais vous prenez un sceptique qui n'écoute pas mon podcast, et évidemment il y en a plein. Si vous lui demandez, est-ce que tu penses que les OVNI sont des visites extraterrestres de la planète? Ils vont vous dire non, bien sûr que non, c'est n'importe quoi. Et puis vous allez lui demander, oui mais comment est-ce que tu expliques l'affaire Roswell? Il en sera bien incapable. Donc, je veux dire, voilà, c'est la différence entre contenu et processus. Pour moi, être rationnel, c'est les processus, c'est pas le fait d'adopter un certain nombre de contenus. Ça fait 25 minutes d'enregistrement, donc j'ai encore le temps d'en faire une. Suspense. Et ça nous amène au 38. Un phénomène peut être à la fois de nature religieuse et politique. Il ne doit pas nécessairement être l'un ou l'autre, c'est un faux dilemme. Un phénomène peut être à la fois de nature religieuse et politique. Il ne doit pas nécessairement être l'un ou l'autre. C'est un faux dilemme. Oui, bon, bah ça, vous en doutez, c'est lié, je l'avais écrit en fonction, en réaction un peu à aux événements politiques de ces derniers temps, les attaques à Paris, etc. J'essaie honnêtement de ne pas de me restreindre un maximum sur ces sujets-là. Parce que tout le monde a un avis, et puis... plus le temps passe, plus... Enfin, c'est toujours le problème de la politique et du scepticisme. On ne peut pas ne pas en parler, mais en même temps... Je pense qu'il y a aussi un manque d'humilité de beaucoup de personnes. Et moi, je sais que... comme tout le monde, j'ai un avis. Comme tout le monde, je lis un peu des choses ici par là, mais... J'ai l'impression que pour vraiment avoir un avis vraiment étayé, élaboré sur toutes ces questions, je devrais lire beaucoup plus que je ne le fais, ou je devrais m'intéresser beaucoup plus à tous les aspects sociologiques, etc. du sujet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un faux dilemme qui m'a toujours... Bon, là, je vais faire l'inverse de ce que je viens de dire. Je vais quand même donner... C'est pas une opinion, c'est juste une manière sur les choses, mais c'est un constat sur ce que je lis sur Facebook et sur Twitter, etc. à propos de cette question-là. Parce que c'est toujours assez marrant de voir les sceptiques qui défendent eux-mêmes des positions radicalement inverses. Hein. Parce qu'apparemment, on est tous très rationnels, mais en même temps, on arrive à des conclusions qui sont visiblement pas les mêmes. Et ça, c'est toujours très intéressant de voir, parce que ça ouvre beaucoup les yeux sur le scepticisme. Il y avait ça ça a eu lieu lors des grands conflits sur le féminisme avec Rebecca Watson, hein, où vous avez... Enfin, c'était pas 50-50, mais enfin, pour caricaturer, j'ai 50% qui étaient défendaient Rebecca Watson, des gens que j'admirais dans la communauté sceptique, et 50% des autres gens que j'admirais dans la communauté sceptique américaine qui critiquaient Rebecca Watson. Et alors, on se dit, ah ouais, c'est ça la communauté rationnelle. Apparemment, avec les mêmes processus rationnels, ils n'arrivent pas à la même conclusion. Et alors, ici, c'était un peu la même chose qui me frappait toujours. Bon, évidemment, il y a un recouvrement avec la position athée. Certaines formes d'athéisme qui interfèrent, hein, donc ça c'est peut-être même plus dans la communauté athée que dans la communauté sceptique. Mais donc évidemment l'idée, c'est bon pour les attentats à Charlie Hebdo, les attentats à Paris, on va entendre chez certains sceptiques ou certains athées l'idée que l'explication de leur comportement c'est l'islam évidemment, ou l'islamisme hein, si on pour les gens, enfin... Je veux dire, si vous allez chez quelqu'un comme Sam Harris ou Jerry Cohn et tous ces gens-là, ils vont dire non, c'est juste l'islam, quoi. Ils crient à la Akbar, donc l'explication de leur comportement, ils nous la donnent. Et l'explication de ce comportement, c'est l'islam. Je pense que j'ai entendu cet argument textuellement. Enfin bon, il faut mieux pas attribuer. Mais enfin, je pense, allez, je vais dire que je pense l'avoir entendu exactement sous cette forme-là chez Sam Harris, sur un podcast de Sam Harris. Et puis de l'autre côté... On a plein de sceptiques et d'athées qui vont dire non, en fait ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas un phénomène finalement de nature religieuse, dans le fond c'est un phénomène lié à la géopolitique. Et en fait c'est vrai que je me suis un peu débattu moi-même avec cette question, c'est une question intéressante, parce que c'est en voyant les arguments et les autres, mais des uns et des autres, mais en fait... Dans le fond, en réfléchissant au sujet, on se dit, en réalité, c'est débile, c'est parce que c'est un faux débat. C'est un faux dilemme, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on nous propose de faire un choix entre deux choses qui ne sont pas... qui ne sont pas deux variables qui ne sont pas indépendantes, quoi. Bien entendu que la religiosité est toujours intimement liée à la politique. C'est impossible de dissocier les deux, quoi. Je me souviens, j'ai eu même quelqu'un qui me comparait avec les croisades. Parce que les croisades au Moyen Âge, c'était religieux ou c'était politique? En fait, c'est absurde de poser la question comme ça n'a pas de sens, quoi. C'était les deux. À chaque fois, c'était encore et toujours les deux, quoi. Et donc, en gros, quand quelqu'un dit le phénomène est purement religieux ou le phénomène est purement politique, ben, il nous donne son biais à lui, quoi. Il nous donne l'aspect que lui veut attaquer ou ce que lui a envie que le phénomène soit. On revient un peu sur ce qu'on discutait dans le dernier épisode sur les aphorismes. On a toutes des Jésus différents dans les évangiles, et puis on dit, bah, Jésus finalement c'était un rebelle, ou Jésus c'était un thaumaturge. On choisit le Jésus qu'on a envie que le Jésus soit dans l'éventail de ce qu'il y a. Et donc quand on est dans un phénomène complexe qui a à la fois des composantes religieuses et à la fois des composantes politiques qui sont intimement mêlées, parce qu'en fait la religion et la politique c'est toujours intimement mêlé. Il y a des gens qui ont envie de mettre la lumière sur un des aspects par rapport à l'autre, qui vont dire ce phénomène s'explique par la religion ou ce phénomène s'explique par la géopolitique. Mais en faisant ça, ils nous en disent plus sur eux que sur le phénomène lui-même. parce qu'ils prioritaient, enfin, ils montrent quelle est leur priorité dans leur esprit, quoi. Quel est l'ennemi à combattre dans l'esprit. Mais ça nous apprend plus sur eux qu'autre chose, quoi. Parce que religion et politique, c'est les deux faces de la même pièce. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement en vôtre.